Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Sébastien Royer. De l'espionnage aux attaques cyber, des agents doubles aux opérations de déstabilisation, les services secrets sont dotés de moyens nouveaux, dirigés vers des missions nouvelles. Cette semaine en Culture Monde, une série pour évaluer le pouvoir de ces acteurs. Nous parlerons demain de la Chine, ses réseaux tentaculaires de l'espionnage. Mercredi, des États-Unis où la CIA est au cœur du jeu politique. Jeudi, du Mossad en Israël, main dans la main avec les entreprises de la tech. Aujourd'hui en Russie, les services sur le pied de guerre, même si pris de court par l'attentat du 22 mars au Crocus City Hall en périphérie de Moscou.
Permettez-moi de vous rappeler les récentes déclarations franchement provocatrices d'un certain nombre de responsables occidentaux sur de possibles attaques terroristes en Russie. Tout cela s'apparente à un pur chantage et à une intention d'intimidation et de déstabilisation de notre société.
Malheureusement, plusieurs responsables russes ont déformé et rejeté publiquement l'utilité des informations que le gouvernement américain a transmises aux services de sécurité. Ces informations, communiquées par écrit aux autorités russes, étaient précises, opportunes et crédibles.
Nous pensons que l'action a été préparée par les radicaux islamistes eux-mêmes et qu'elle a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils sont directement impliqués.
Des armes à feu qui crépitent dans une salle de concert couverte par les sons de basse fréquence qui faisaient patienter le public en attendant l'arrivée du groupe Picnic dans le centre d'exposition de la ville de Krasnogorsk en périphérie de Moscou, bientôt envahi par les flammes. 144 spectateurs au moins sont morts le 22 mars dernier. Plus de 80 ont été blessés. L'État islamique a revendiqué l'attentat. Vladimir Poutine et son équipe accusent l'Ukraine et les Occidentaux de complicité. Occidentaux qui avaient pourtant averti plusieurs jours avant de l'imminence d'une attaque. L'avertissement était même en page d'accueil du site de l'ambassade américaine en Russie. Les services de renseignement russes avaient-ils relayé cette alerte au Kremlin ? En tout cas, Vladimir Poutine n'avait pas voulu l'entendre. Si l'attentat révèle certaines failles du contre-terrorisme russe, c'est parce que ces services sont occupés ailleurs et concentrent leurs efforts sur l'Ukraine et ses alliés. Attaques d'infrastructures, désinformations à grande échelle ou corruption de députés européens, les agents du Kremlin tentent de faire avancer les idées russes sur le vieux continent en même temps que les troupes en Ukraine. Alors quelle logique politique, idéologique, bureaucratique façonne l'action des agents du Kremlin ? Nous en parlons ce matin avec deux invités. Bonjour Christine Dugoin-Clément.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse pour la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1 et au centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous avez écrit « Influence et manipulation » au pluriel, des conflits armés modernes aux guerres économiques, c'est paru chez VA Éditions. Nous sommes également en direct depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes avec Julien Nocetti. Bonjour.
Bonjour.
Merci et bienvenue. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, au laboratoire Géode pour géopolitique de la datasphère de l'Université Paris 8. Vous avez contribué au livre « Les mondes du renseignement » paru le mois dernier au PUF. Et vous êtes l'auteur d'une géopolitique du numérique paru en décembre aux éditions La Découverte. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, c'est difficile de commencer cette émission avec un attentat dont on ne sait pas grand-chose. Cet attentat du 22 mars au Crocus City Hall. On a beaucoup parlé d'un échec sécuritaire. Alors, tout attentat est un échec sécuritaire, qu'il survienne en Iran, au Cameroun, en France, aux États-Unis ou en Russie. Alors, peut-être d'abord, pour commencer, Julien Nocetti, que sait-on des attentats que les renseignements russes ont jusqu'à présent évités, ont jusqu'à présent déjoué les projets terroristes qui ont été désamorcés ces dernières années, et quand ils l'ont été, par quel service ?
Effectivement, c'est extrêmement délicat de démêler tous les fils de cette affaire, de ce drame au Crocus City Hall, parce que justement les principaux responsables russes et les services ont communiqué de façon tous azimuts en laissant entendre que différents acteurs, des Ukrainiens aux islamistes, voire même certains occidentaux, auraient été à l'origine en fait des attaques ou auraient du moins facilité la perpétration de cet attentat et le travail des terroristes. Donc c'est extrêmement délicat. délicat, sachant que justement le volet médiatique et informationnel vient justement labourer tous les narratifs qui sont ensuite diffusés par ces acteurs russes, qu'ils soient officiels et aussi qui font partie de cette mouvance informationnelle pro-russe. Donc les réactions officielles, elles sont évidemment à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que d'une part elles se conforment tout à fait aux priorités du Kremlin, hein, c'est le théâtre ukrainien avant tout, c'est un contexte de lutte contre l'Occident, donc il faut bien voir ça à l'esprit, sachant que quelques jours avant l'attentat, c'était 3 jours avant l'attentat, Poutine, qui s'exprimait devant le collège du FSB à Moscou, ne parlait de la menace terroriste que en fait sous l'angle de la guerre en Ukraine et n'a fait aucune référence à Daesh. Donc ça montre bien aussi cette orientation, cette espèce de fixation très très forte des élites stratégiques du pays, à commencer par sa principale tête, hein, Poutine, vis-à-vis d'une subversion permanente de la part des Occidentaux à l'encontre de la Russie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas neuf en soi, mais qui a pris une dimension tout à fait éclatante avec cette attaque terroriste, bien sûr, hein, sachant que déjà de très longue date, la question de la lutte antiterroriste est un des grands irritants de la relation entre la Russie et les principales puissances occidentales.
Il est arrivé, ce qui complique la lisibilité encore de ce qui s'est passé le 22 mars, c'est qu'il est arrivé dans le passé que l'État islamique revendique des attentats qu'il n'avait pas expressément commandités, et en tout cas sujet débat entre chercheurs, mais que ce soit la fusillade de Las Vegas en 2017, l'attaque au couteau à Marseille la même année devant la gare de Saint-Charles, et même sans doute l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice, à chaque fois le profil des tueurs était plus complexe que de simples soldats de Daesh, donc ça complique encore la façon dont on peut aujourd'hui parler de ce qui s'est passé le 22 mars. Donc sans pouvoir mener d'ici la moindre enquête, en revanche, comment les services russes appréhendent le terrorisme islamiste, qu'il soit tchétchène ou plus récemment affilié à l'État islamique? Julien Nocetti, quelle place occupe le terrorisme islamiste dans la stratégie de sécurité nationale?
Alors en fait, il occupe une place centrale, et ça remonte, il faut remonter en fait à l'origine même de la présence Poutine, hein, il faut le rappeler, est arrivé au poste de Premier ministre et ensuite a été élu président en mars 2000 dans un contexte de reprise des hostilités en Tchétchénie à partir du territoire du Daghestan voisin, République daghestanaise, qui était en proie à une instabilité irrédentiste et qui était aussi alimentée par des combattants venant de pays du Moyen-Orient. Donc ça, c'est vraiment le contexte de l'arrivée de Poutine qui a fortement imprimé en retour la vision du sujet de ses principaux collègues et en retour aussi de l'approche des grands services d'enseignement russes, le FSB, à commencer par celui-ci, mais aussi le SVR, le renseignement extérieur, et le GRU, le renseignement militaire russe, qui ont commencé à faire de la lutte antiterroriste leur alpha oméga, finalement, d'une politique étrangère pas uniquement restreinte à l'étranger proche de la Russie, mais aussi dans un étranger plus lointain, notamment pour aller réinvestir le Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu de façon plus visible à partir de 2015, avec l'engagement russe en Syrie, où cette question antiterroriste a été martelée dès le départ par Poutine et ses principaux et son entourage pour aller sanctuariser le théâtre syro-irakien de cette menace terroriste. Donc la justification dès le départ était portée sur ce sujet-là. Il y avait évidemment une sorte de miroir déformant jeté aux Occidentaux qui, selon la vision du Kremlin, n'aurait fait que faciliter l'extension des territoires djihadistes. Il faut bien voir ici que le dessin est beaucoup plus complexe. Ça mériterait beaucoup de nuances, sachant que dans ce même temps, donc on était au début des années 2010, où on a assisté en Russie à une recomposition très forte de cette mouvance djihadiste qui, globalement, pour faire très court, était affiliée à Al-Qaïda, notamment dans le Caucase.
La branche afghane, l'État islamique du Khorasan, là, c'est la branche afghane de l'État islamique.
Effectivement, et la plupart de ces différents groupuscules, à la fois dans le Caucase et dans l'Asie centrale, ont prêté allégeance à Daesh. Et tout ça a entraîné des luttes intestines extrêmement virulentes, et Moscou, donc les services de renseignement russes, en ont profité par la même occasion pour aller, dans la mesure du possible, exporter ces combattants sur le théâtre syro-irakien. Alors, tout ça a entraîné évidemment beaucoup de tensions aussi en interne.
Christine Dugoin-Clément, il se trouve qu'au début du mois de mars, les services russes avaient déjoué une attaque contre une d'une synagogue à Moscou en démantelant une cellule de l'État islamique du Khorassan dans la région de Kalouga en Russie centrale qui comptait attaquer une synagogue. Un peu plus tôt, ils avaient aussi annoncé avoir tué 6 combattants du groupe État islamique en Ingouchie, donc une petite république du Caucase à majorité musulmane. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu, dans ces cas-là, coopération avec les services américains? C'est-à-dire là, cette fois, pour l'attentat du Crocus Hall, du Crocus City Hall, les États-Unis disent avoir averti la Russie qu'il allait se passer quelque chose. Bon, c'était très flou, hein, parce que l'alerte datait du 7 mars et l'attentat a eu lieu le 22. Néanmoins, est-ce qu'il est arrivé dans un passé récent, et quand bien même Russie et États-Unis sont opposés sur à peu près tout, qu'il y ait coopération des services sur la question du terrorisme islamiste?
Alors, il faut voir peut-être quelque chose pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est que la Russie est structurellement, même si elle a du mal à l'admettre, est un empire multiethnique qui a grignoté différents territoires, qui avait des cultures, des identités et des religions différentes. Et que tout ce qui est menace islamiste est extrêmement importante depuis fort longtemps. Il y avait eu des attaques, dont une qui avait été assez marquante en 2017, où une nourrice qui était, si ma mémoire est exacte, d'origine ouzbèque, avait tué l'enfant qu'elle gardait en plein Moscou, de manière assez barbare. Chose dont nous, on n'avait pas du tout entendu parler, mais qui reste extrêmement présent au niveau de la population russe comme risque. Alors, il y a eu, depuis, si on repart depuis l'effondrement des tours, hein, les attaques sur les tours, cette espèce de vocable qui a été lancée de guerre contre le terrorisme, où, quelque part, quels que soient les enjeux individuel, et bien les différents peuples devaient plus ou moins essayer de collaborer. Donc ce qui avait pu donner ce principe-là. On a parlé de la Syrie, peut-être que certains d'entre vous se rappellent d'une opération, alors qu'avait beaucoup servi en termes de communication, parce qu'il y a une forme de recyclage aussi, où les chasseurs russes étaient armés de bombes sur lesquelles était marqué Parigi, donc pour Paris. Donc on avait toute cette approche-là. On retrouve cette démarche-là qui est de dire, oui, nous ne pouvons lutter contre le terrorisme seuls, mais par contre avec un retour qui est de dire... Oui, mais les alertes qui ont pu être faites par les Américains au début du mois de mars, alors serait-ce au début du mois de mars pour quelque chose qui apparaît 15 jours après, c'est pas un délai extrêmement long. Vous avez des signaux faibles, ce qu'on va appeler des signaux faibles, un ensemble de vos capteurs qui vous remontent de l'information, qui vous laissent à penser que quelque chose est en train de se tramer. Vous n'avez pas forcément la date et l'heure à chaque fois, ça serait tellement beau.
Le lieu, bien sûr.
Voilà, ça serait tellement beau, ça ferait des superbes séries Netflix, mais malheureusement, dans la réalité des faits, c'est pas toujours comme ça. Et là, on arrive à quelque part une inversion du process qui est de dire oui, mais si vous avez alerté, c'est donc que vous le saviez. Et on a cette espèce de renversement en sachant que l'approche et la connotation de terroriste dans le vocable russe a été extrêmement modifiée. Alors effectivement, c'est un point central, mais on l'a vu notamment depuis 2 ans avec l'invasion qui a été enclenchée par le Kremlin de l'Ukraine, et bien est devenu terroriste tout principe d'opposant au régime. Et vous passez d'ailleurs assez vite de terroriste à nazi sans que finalement vous ayez des caractéristiques qui sont celles que l'on attend, on va dire généralement, ne soit présente. Donc on a toute cette problématique là qui arrive et qui a pu être ressortie. Il est en règle générale d'usage que des services communiquent. Alors après, c'est du domaine de la vision politique du pourquoi et du comment sur certains points, en sachant que la communication entre les services, même quand on n'est pas dans des états de tension, voire de conflit ouvert, est toujours assez délicate, puisque vous n'avez pas forcément envie de donner la totalité des informations que vous avez, des renseignements ou quoi ou qu'est-ce. Donc on est toujours sur des échanges qui sont éminemment délicats à mener entre les différents services.
Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux, dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. C'est une tactique de peur, comme je l'ai déjà dit. Et la question qui se pose immédiatement est de savoir à qui cela profite. Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives de la part de ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays par l'intermédiaire du régime néo-nazi de Kiev.
Vladimir Poutine qui pointe la responsabilité des néo-nazis de Kiev après l'attentat, ce sont ses mots, et il n'est manifestement pas le seul à en être convaincu. Julien Nocetti, quand le journal d'opposition, journal Novaya Gazeta par exemple, affirme que 3/4 des attentats déjoués par le FSB depuis 2 ans étaient supposément liés à l'Ukraine, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'à chaque fois le pouvoir a désigné l'Ukraine comme commanditaire des attentats, ou ça veut dire que réellement il y a parfois un lien entre des attentats qui ont lieu que ce soit sur les territoires occupés en Ukraine par les Russes ou en Russie même et l'Ukraine?
Alors moi je me confirmerai en fait à comment dirais-je à la lecture qu'effectivement on a pu en avoir depuis quelques années à resituer dans ces cultures stratégiques russes que j'ai brossé à très grands traits, à savoir que voilà vous avez des autorités russes qui ont désigné leurs principaux adversaires. Christine rappelait évidemment tout le vocabulaire prêté au pouvoir ukrainien, soi-disant junte nazi, toxicomane, etc. Donc tout ça fait partie d'une rhétorique construite sur des années, pas seulement depuis février 2022, mais depuis 2014, rhétorique à laquelle est venu se greffer hein, tout cet emploi de vocabulaire de terroriste, etc. Donc c'est il faut bien comprendre que voilà ça fait partie d'une stratégie politique étrangère et de sécurité cohérente dans son ensemble avec des adversaires désignés clairement, mais de là estimer que le théâtre ukrainien est perméable à des flux djihadistes, là pour le coup je ne suis pas dans le secret des dieux et loin de moi l'idée d'avancer de telles choses. Donc voilà, j'aurai une réponse qui sera peut-être une réponse normande, mais en même temps c'est une problématique qui faut prendre avec beaucoup d'humilité.
Donc c'est en effet il y a tout ce qu'on ne sait pas et le peu qu'on sait sur cet attentat. Ce qu'on sait c'est que Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a rejeté toute aide d'Interpol dans l'enquête. Est-ce que ça veut dire qu'Interpol s'est proposé, Christine Dugoin-Clément? J'apprends aussi qu'il y a un chef de station de la CIA à Moscou. Donc comment travaille-t-il? Est-ce qu'on le sait? Et par ailleurs, si la Russie est parfois perméable ou attentive à des alertes venues d'autres services que les siens, les services russes, alors de quel service peut-elle entendre les alertes? Avec qui est-ce qu'elle coopère? Est-ce que notamment les services d'Asie centrale, le Tadjikistan, dont sont originaires les quatre hommes arrêtés après l'attentat du 22 mars, est-ce qu'il y a une collaboration quelque part?
Il y a des relations qui sont historiques et qui sont plus simples avec les pays qui faisaient partie de l'ancien bloc soviétique, donc qui permettent d'avoir normalement des échanges et une forme de collaboration qui sera plus ou moins importante. Après, ce que vous allez avoir, c'est toujours pareil, c'est quelle va être votre hiérarchisation des menaces, et quand bien même une des menaces, alors même que vous auriez pu, et encore une fois, là, on n'est toujours pas dans le secret des dieux, hein, de savoir ce qu'il en est, comme le rappelait Julien Nocetti, mais quand bien même, eh bien, vous n'arrivez pas à prévenir l'émergence d'une attaque, eh bien, dans ce cadre-là, c'est comment est-ce que vous allez gérer l'ensuite, l'après, en fait, hein, et dans deux temps, c'est-à-dire au niveau politique, quelle va être cette approche-là, et au niveau sécuritaire. Ce qui est sûr, et là encore, hein, on le sait, hein, c'est qu'il y a une pression en Russie assez forte sur le terrorisme d'origine islamiste. On sait aussi que... il y avait une pression qui était accentuée par plusieurs choses, c'est-à-dire notamment le soutien de long terme de la Russie au gouvernement Assad. Et puis, vous avez derrière aussi cet historique de l'Afghanistan et de la Tchétchénie, qui permet de venir cristalliser un certain nombre d'éléments.
L'occupation soviétique de l'Afghanistan en 79 est encore
voilà,
dans les mémoires.
Qui avait d'ailleurs causé des pertes assez importantes, qui ont souvent été rappelées en miroir aux pertes russes sur le territoire ukrainien. Et puis la Tchétchénie, avec ses deux tours, hein, de la guerre de Tchétchénie, Tchétchénie 1 et Tchétchénie 2, qui avait été particulièrement marquante. Je vous rappellerai aussi certaines déclarations du président Poutine il y a quelques années encore, quand il disait qu'il irait récupérer les terroristes jusque, et je cite, dans les chiottes. Donc on était dans cette approche-là. Donc quelque chose est évidemment fortement marqué. Au demeurant, vous allez avoir tout ce qui est un travail sur ce qu'on appelle des signaux faibles, essayer de voir ce que les autres regardent quand bien même vous ne communiqueriez pas, pour essayer de comprendre pourquoi l'intérêt est à tel endroit, etc. Tout un travail de triangulation que vous allez faire. Au demeurant, depuis maintenant 2 ans, vous avez quelque part une centralisation du regard qui s'est fait notamment sur le territoire ukrainien. Et pas que, c'est-à-dire que quand vous avez eu beaucoup d'opérations, notamment d'influence et informationnelles, qui ont été menées vers des territoires extérieurs, alors que ce soit occidentaux ou la zone du Moyen-Orient et de l'Afrique, donc la zone MENA, vous êtes aussi occupé à essayer de vous prémunir des travaux de contre-influence des pays dans lesquels vous allez travailler. Et tout cela vous occupe en temps, vous occupe en masse humaine, et par ailleurs, on y reviendra peut-être, j'imagine, mais il y a eu des restructurations extrêmement fortes qui ont été effectuées dans les différents services de renseignement, notamment au sein du GRU, le renseignement militaire.
On va parler de ces restructurations. En effet, est-ce que les services de renseignement russes qui aujourd'hui travaillent spécifiquement sur le terrorisme islamiste ou qui travaillaient jusqu'à présent sur ces questions-là, est-ce que ce sont les mêmes services qui aujourd'hui Julien Nocetti appuie l'armée russe pour sa guerre en Ukraine, l'alimente en renseignements. Est-ce que les trois services que vous citiez tout à l'heure, FSB, SVR, donc renseignement extérieur, et GRU, renseignement militaire, sont toujours très présents en Ukraine, ont vraiment musclé leur présence sur place?
Alors absolument, mais là il y a une pression importante en fait à faire, c'est que depuis la fin de l'URSS en 1991, le FSB, donc issu du KGB, a la haute main sur non seulement la Russie elle-même, mais l'étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques. Ça c'est un point important parce qu'en fait avec notre regard extérieur, on pourrait supposer que le SVR, le renseignement extérieur, aurait toutes les prérogatives pour s'occuper justement du renseignement vis-à-vis des anciens satellites. Le FSB en fait a toutes les marges de manœuvre en la matière, surtout en Ukraine où depuis 30 ans l'Ukraine est considérée comme une chasse gardée du FSB, ce qui a alimenté beaucoup de tensions avec les autres services, à commencer évidemment par le SVR et aussi avec le GRU qui, à certains moments, et c'est peut-être surtout le cas depuis une petite dizaine d'années, et ça s'est renforcé depuis 2018 avec l'agressivité beaucoup plus notable du GRU, donc le renseignement militaire, où les tensions historiques entre ces deux services, GRU et FSB, là aussi ont été quand même largement attisées, et Poutine a à certains moments donné des gages à l'un ou à l'autre, donc en dosant soigneusement ses réponses. Et juste une précision aussi à apporter peut-être sur l'espace centra-asiatique, où là il faut peut-être voir le rôle d'une instance comme l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, qui de longue date a été peut-être beaucoup trop rapidement comparé à une sorte d'OTAN de l'espace post-soviétique, hein, c'est loin d'être le cas, mais l'OTSC a surtout un rôle en matière de coordination, en matière de lutte antiterroriste, avec l'acception très extensive que rappelait tout à l'heure Christine, hein, à savoir que tout opposant est potentiellement un terroriste, mais en matière de lutte antiterroriste, c'est peut-être le forum au sein duquel les anciens alliés des centrales et aussi d'autres pays s'assoient autour d'une table et discutent des réponses à mettre en œuvre. Bon, voilà, c'est peut-être un exemple très localisé pour le coup. On peut s'interroger sur l'apport réel de cette organisation dans le contexte des attentats tout récents de Moscou. Mais pour le coup, ça reste un forum très très utilisé.
Donc il y a des rivalités entre services, Christine Dugoin-Clément, et une coordination malgré les rivalités, ou justement pour éviter les rivalités, cette coordination qui est aujourd'hui, il y a une coordination opérationnelle aussi avec un comité national antiterroriste. Est-ce que cette coordination a été mise en place pour justement éviter que les services entre eux ne se fassent concurrence, rivalisent pour obtenir telle mission et finalement soient moins efficaces?
Alors ça, c'est assez compliqué. Julien vient d'expliquer que parfois, le président Poutine avait donné des gages aux uns ou aux autres. Donc lui, c'est un héritier du KGB, donc qui a donné le FSB ensuite. Mais ce que l'on a vu, c'est effectivement des services qui rentraient en concurrence. Et puis, dans l'approche, dans l'exercice du pouvoir russe, une habitude qui est de mettre en concurrence différents acteurs. Alors la version positive sera de dire que vous allez générer une saine compétition afin que chacun s'améliore. L'autre option étant de dire qu'aucun des services ou aucun des acteurs que vous allez un petit peu comme ça... à diviser, mais c'est valable aussi en termes de pouvoir politique, pas uniquement pour les services, n'arrive pas à une masse critique pouvant mettre en danger le pouvoir. Et puis il y a eu, pendant la période du Covid, notamment un renfermement du pouvoir russe, du Kremlin et du président Poutine sur lui-même. Ce que l'on a vu, c'est au niveau de l'invasion, alors peut-être avant ça, il y a quand même eu des opérations qui ont fait grand bruit, mais qui, en termes de renseignements et en termes d'opérations sur des théâtres extérieurs, étaient des fiascos assez importants. On pourrait parler, par exemple, de l'opération Skripal à Salisbury, en Angleterre, où il y avait une tentative d'assassinat d'un ancien agent russe.
GRU, 2018.
Voilà, et qui avait été, en termes de déroulé de l'opération, une catastrophe à peu près complète et totale, où vos deux agents sont retrouvés de manière extrêmement rapide, ils laissent des empreintes de tous les coins, ils laissent des traces dans tous les coins, ils ratent leur cible.
Ils disaient qu'ils étaient allés visiter la cathédrale de Salisbury.
Voilà, ils étaient allés visiter la cathédrale. C'était des agents qui venaient des coachs sportifs qui étaient venus en touriste puis qui voulaient récupérer des molécules. Enfin bon, bref, avec tout ça devant, qui avait donné résultat sur une interview en mode un peu passif-agressif sur RT à l'époque. Donc bon.
Mais même Alexei Navalny, d'ailleurs, disait, il avait eu l'occasion de se moquer d'eux parce qu'ils avaient raté leur empoisonnement en 2020, répandu du Novichok sur ses sous-vêtements, et il s'était beaucoup moqué d'eux. Alors,
c'était une opération qui était assez catastrophique, et on avait le Kremlin qui avait quelque part rétro-pédalé pour récupérer ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, alors, notamment si on parle du GRU, vous avez une unité qui s'appelle l'unité 29155, qui a été créée à partir de 2008. Qui a été la grosse réforme de l'armée russe, qui a, si vous voulez, pour objet de faire tout ce qui est opération sous couverture des espions, donc à l'étranger, pour faire assez bref. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle va être importante dans la restructuration qu'on a vue. Arrive l'invasion en février 2022, les débuts que l'on sait, et on arrive à avoir une très grosse purge, notamment dans le département 5 du FSB, qui est celui qui remonte les retours de terrain. Ça, c'est ce que l'on a vu. Et ce dont on a un peu moins parlé, c'est une restructuration qui s'est faite pendant toute l'année 2022, donc à marche forcée, mais avec une certaine efficacité, du GRU, donc du renseignement militaire. Alors, vous avez déjà un premier point, c'est qu'au niveau de l'administration du président, vous avez des comités spécifiques qui ont été créés. Donc, ce comité, il est sous la direction de Sergueï Kirienko, qui travaille avec le NSC, donc le Conseil National de Sécurité, dont le secrétaire Nikolaï Patrouchev est bien connu pour ses interventions auprès des médias. Le but étant d'arriver à déterminer l'efficacité des différentes opérations et potentiellement d'aller les tasquer, leur donner des différentes opérations et des moyens pour pouvoir le faire. Ça a été le premier niveau. Et en parallèle, on a restructuré les unités, donc l'unité dont je vous parlais, qui était sous la direction d'un centre qui s'appelle le centre 161. Donc vous avez trois unités maintenant. Donc il y a la 29155 qui reste, qu'on connaît aussi sous le nom de l'unité de la garde, qui va s'occuper de tout ce qu'on appelle des agents qui ont des couvertures partielles, c'est-à-dire ceux qui vont pour des opérations de temps court. Vous allez sur un territoire pour telle ou telle action. Une autre unité qui s'appelle la 50654 qui, elle, est pour les agents sur du temps long. Donc ceux que vous allez voir qui vont rester sur le territoire et qui vont permettre d'accueillir. Et puis vous avez en parallèle un service centralisé qui permet de chapeauter tout ça. Et vous avez dans ce cadre-là deux canaux. Un qui est pour ce qui se gère sur l'Ukraine, qui est sous la direction d'Averianov, qui est Averianov gère ce qui est sur tout ce qui est extérieur à l'Ukraine, qui était l'ancien patron du 161, et vous avez Alexeïev qui, lui, gère tout ce qui se passe en Ukraine et qui est auprès du commandement de l'opération militaire spéciale.
Donc, une réorganisation pour éviter de reproduire des erreurs telles que celles qui ont eu lieu juste avant le début de la guerre en Ukraine. Le FSB avait parié sur le succès de l'opération spéciale en Ukraine, sous-estimant la résistance ukrainienne. Il y a cette propension systématique des services de renseignement russes à produire des analyses allant dans le sens des attentes du Kremlin. Et quand ce n'est pas le cas, Vladimir Poutine sait les faire changer d'avis, comme ici face à Sergueï Narychkin, chef du service de renseignement extérieur russe, deux jours avant l'invasion de l'Ukraine.
Vous proposez d'engager le processus de négociation ?
Non,
Ou de reconnaître la souveraineté des républiques ?
Je soutiendrai...
Allez droit au but.
Je soutiendrai la proposition de reconnaissance.
Soutiendrai ou soutiens, soyez clair.
Je soutiens la proposition.
Dites-le.
Je le dis, oui. Je soutiens la proposition d'unir les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk à la Fédération de Russie.
Mais on ne parle pas de ça, on n'en discute pas. On parle de reconnaissance ou non de leur indépendance.
Oui, oui. Je soutiens la proposition de reconnaissance de leur indépendance.
Sergueï Narychkin face à Vladimir Poutine lors du Conseil de sécurité du 22 février 2024, retransmis à la télévision russe. Ça fait partie du poste, Julien Ossetti, d'être toujours d'accord avec le chef du Kremlin. C'est ce qu'on lui demande.
Et puis c'est vrai que cette séquence noire que vous avez diffusée est assez gênante, effectivement pour l'intéressé. En gros, il s'est fait humilier sur la place publique l'avant-veille du déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine. Et ça a quand même placé son institution, le SVR, à mon sens, dans une position peu enviable. Mais ce qu'il faut peut-être souligner, en fait, par rapport à cette question, c'est les différences de liens, en fait, avec Poutine, entre ces différents services. Christine évoquait le GRU, et en fait, au sein des trois principaux services, GRU, SVR, FSB, le GRU est le seul qui n'a pas de lien direct, de téléphone direct avec Vladimir Poutine. Le GRU dépend d'abord du chef d'état-major des armées et du ministre de la Défense russe. Alors que le FSB et le SVR, eux, leur chef répond directement de Vladimir Poutine. Donc effectivement, Sergueï Narychkine répond entièrement des directives du Kremlin, ce qui peut effectivement dans certains cas conduire à nuancer toute la série de métaphores qu'on a pu voir fleurir ces 10-15 dernières années sur ces élites du renseignement comme de nouveaux boyards ou une sorte de nouvelle noblesse en fait affidée à Poutine. Donc ils le sont effectivement par le lien organique qui les unit et puis le fait de devoir se conformer à leur directive, mais au fond ils sont totalement coincés dans cette approche totalement verticale et sans la moindre marge de manœuvre. Bon, voilà. Et ce qu'il faut voir aussi à travers ça, c'est que ces différents services, ils luttent en permanence pour conserver l'attention du président. Parce que tout ça va dépendre en fait de leur positionnement, leur influence dans les jeux de pouvoir. Ce qui a été discuté auparavant, hein, c'est tout à fait notable également en matière de d'influence numérique ou de cybersécurité, où vous avez des investissements majeurs qui ont été effectués par certaines unités de certains de ces services, et ce qui a déclenché des rivalités au sein de certains clans affiliés à certains de ces services, et tout ça a pu déclencher des purges en retour. Donc il faut bien voir aussi la dimension clanique du pouvoir en Russie qui pourra alimenter des jeux de pouvoir parfois très très violents. Peut-être en mémoire, il y a quelques années, tel ou tel responsable d'une unité cyber, par exemple, du FSB, qui ont été retrouvés avec ayant fait une crise cardiaque dans leur voiture à Moscou. Donc ça, c'est quelque chose qui rythme aussi la vie politique du pays.
Vous disiez, Christine Dugoin-Clément, que les services se sont réorganisés, qu'ils semblent avoir appris de certaines erreurs, engagé des réformes sur le recrutement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du recrutement dans les services de renseignement russes et la façon dont ils recrutent, que nous dit-elle des objectifs qu'ils ont pour notamment pour les années à venir sur le cyber dont parlait Julien Nocetti.
Alors là aussi, il y a eu des modifications. Alors, faut quand même observer quelque chose, c'est que c'est une réorganisation qui s'est faite de manière extrêmement rapide. Réorganiser des services en un an et demi, c'est quelque chose qui est pas forcément simple à faire. Alors vous me direz, c'est toujours un petit peu plus simple quand on est dans des démocraties perfectibles, pour manier l'euphémisme, et où finalement une décision est assez peu discutée. Sur le volet cyber, il y a eu un engagement assez fort, hein, ça a été évoqué, pour créer des unités. Alors il y en a différentes, hein, alors au sein notamment GRU et FSB, qui sont les deux services qui se mettent le plus en compétition. Et d'ailleurs, cette compétition a pu amener à des ratages. C'est-à-dire que les uns voulant aller tellement vite et doublonner les uns ou les autres qu'on arrive à, parfois, à avoir des choses qu'on a pu observer. Ces différents services... Donc, utilise différentes unités. Alors, tout ça reste assez flou. Évidemment, vous avez assez rarement la carte de visite, hein, de vos différents acteurs. Pour le GRU, on parle principalement de deux unités au volet cyber. Donc, une qui s'appelle la 2665 et l'autre la 74455, avec des noms très poétiques.
Je sais pas si on retiendra, mais on
est... Non, mais Team Sandworm, ouais. Par contre, vous allez beaucoup plus le connaître, ouais. Parce que Sandworm est estimé être rattaché au GRU et sont notamment ceux qui étaient supposés être à l'origine des attaques qui ont touché les systèmes électriques ukrainiens. Donc, que l'on a vu à différents moments. On va retrouver au milieu les Fancy Bears aussi, par exemple, qui sont un autre des noms que l'on va trouver, soit pour des groupes, soit pour des attaques, hein, puisque l'attribution d'une attaque cyber est toujours quelque chose de compliqué. Et puis, côté SVR, eh bien, vous en aurez d'autres, dont notamment un groupe qui s'appelle Turla, qui avait été connu parce qu'il avait touché des systèmes satellitaires. Tout ça donnant, dans le petit monde de la cybersécurité, une appellation plus globale qu'on appelle des APT, des menaces avancées persistantes, hein, Advanced Persistent Threats, numéro 28 et numéro 29, la 28 étant estimée être attachée au GRU, et la 29 sur le FSB, voire SVR, avec parfois une limite un petit peu particulière. Mmh. Sur le recrutement, peut-être rapidement, Donc ce que l'on a vu, c'est toujours des passages par notamment ce qu'on appelait des unités scientifiques qui permettaient une alternative à la conscription. D'ailleurs, on est en vague de conscription, hein, qui permettait de récupérer des talents cyber. On a aussi un milieu où la cybercriminalité n'est pas pénalisée comme elle est dans d'autres États, ce qui permet des collaborations avec des gros groupes comme Conti. Ce qui a pu être vu quand ce groupe, alors qu'il avait annoncé au début de l'invasion soutenir la Russie, eh bien avait été victime de différents leaks, donc de fuites d'informations, et notamment d'une de ces messageries, Jabber, où il y avait des traces assez, alors, qui étaient supposées hein, préalablement, mais là, il y avait assez peu de doutes, de collaboration avec la Bolchoï Doma, la Grande Maison, à savoir le FSB au cas particulier. Et puis, pour les agents dont on a parlé, notamment sur le GRU, les recrutements étaient préalablement beaucoup issus des militaires et particulièrement des forces spéciales qu'on appelle les Spetsnaz. Et ce que l'on voit maintenant, c'est beaucoup plus des clear skin, donc des peaux propres. On va essayer de trouver des gens qui n'ont pas de profil militaire préalable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une existence. Vous n'allez pas pouvoir retrouver
un tel. Ils sont plus difficiles à tracer.
Ils sont plus difficiles à tracer. Et vous allez notamment aussi retravailler sur des étudiants. Et des étudiants dans différents États. Alors, ça peut être des États africains, mais d'autres États en Europe et en Europe du Sud, y compris dans les Balkans. Ce qui permet d'avoir, eh bien, là, des gens qui vont avoir une légalisation complète, ce dont on parlait, et qui sont inconnus, puisqu'ils n'existent pas préalablement. Donc une mutation et un travail renforcé avec tout ce qui est crime organisé.
Donc tout faire pour recruter des personnes qui ne sont pas identifiées par les services de contre-espionnage.
Ou du moins de le développer. Vous aurez toujours des spécialistes militaires, mais de développer ça.
Avec des formations aussi qui sont désormais dispensées un peu partout, dans des lieux sûrs, et non plus sur les sites directement des agences de renseignement, au cas où celles-ci seraient infiltrées. Parce qu'il y a, Julien Nocetti, beaucoup d'agents qui ont été démasqués ces dernières années, qu'ils soient diplomates ou illégaux, opérant sans couverture diplomatique. Alors il y a un haut fonctionnaire du Bundestag, un membre letton du Parlement européen, quelques 450 agents des ambassades européennes qui ont été expulsés depuis février 2022, dont une quarantaine par la France. Est-ce qu'on sait si la Russie essaye de reconstituer son réseau d'agents, d'obtenir de nouveaux visas, ou elle n'essaie même pas parce que de toute façon l'Europe a déployé un bouclier anti-espion russe?
Non, je pense qu'en fait, le contexte étant celui qu'on connaît entre la Russie et nos pays occidentaux, étant ce qu'il est, il y a toujours des tentatives de la Russie de passer outre, effectivement, comme Christine le rappelait, d'aller trouver de nouveaux profils. Effectivement, certains, ce seront des étudiants qui viendront de différents pays. Alors moi, j'ajouterais peut-être les pays d'Amérique latine, où on a vu ces dernières années quelques cas d'agents russes auxquels était prêté un passeport du Brésil, de Colombie, etc., et qui ensuite allait faire un stage au tribunal pénal international ou dans d'autres institutions bien connues, et ces affaires en fait ont déclenché quand même quelques polémiques. Il y a eu des révélations notamment lancées par Bellingcat, hein, donc ce site qui a parié depuis des années sur le renseignement en source ouverte et qui a permis de débusquer de nombreuses affaires. Et c'est vrai que une des plus intéressantes, c'était celle de Maria Adela, du nom de cette agent du GRU, renseignement militaire, qui travaillait en fait à Naples, à proximité immédiate du QG des forces navales de l'Alliance Atlantique, et qui aurait durant les années en fait passé à Naples, aurait séduit différents officiers supérieurs et travaillé sous couverture en vendant des bijoux de modeste qualité. Donc tout ça a été révélé par Bellingcat, et c'est un cas symbolique évidemment, mais qui montre bien aussi cette présence toujours très très forte. Peut-être aussi bien expliquer aussi pour les auditeurs, c'est qu'en fait, c'est les usages de ces différents groupes cyber, qu'ils soient purement cybercriminels ou qu'ils aient des loyautés plus ou moins variables avec les autorités civiles et militaires russes, tout ça va permettre d'aller brouiller en retour les responsabilités. C'est-à-dire que la Russie, même si on doute plus forcément aujourd'hui de ses responsabilités, va toujours instiller une forme de doute, de confusion, et ce qui, en retour, ira paralyser, ira gêner les répliques, les contre-réponses des pays occidentaux. Un dernier point aussi à rappeler, c'est qu'on est dans un contexte de sanctions occidentales, enfin internationales, qui visent la Russie, et que les services de renseignement n'ont pas abandonné, loin de là, loin s'en faut, des pratiques d'espionnage pour aller alimenter le complexe militaro-industriel en brevets, en technologies critiques, et je pense notamment aux semi-conducteurs qui font largement défaut à tout l'appareil de défense du pays. Donc il faut aussi peut-être ne pas occulter la partie la plus économique finalement du travail d'espion en Russie. Et là, ça renvoie peut-être un parallèle qu'on peut faire avec le contexte du début des années 80 où l'URSS, qui s'était lancé dans cette course effrénée à l'armement avec les Américains, était aussi extrêmement agressive dans les pays européens par rapport aux grands acteurs de la défense de ces pays.
Donc, merci. Voilà. Oui, merci Julien Nocetti. On arrive à la fin de cette discussion de première partie et juste après ce disque du groupe Picnic qui devait se produire au Crocus City Hall le 22 mars dernier, on parlera de la façon dont les missions de Wagner ont été réparties entre services de renseignement russes en Afrique.
Как лежит ветер тревог, и мы танцуем одни на пыльной ленте дорог, как будто клятва дана, и ничем не дорожить, а только в этих волнах кружить. Женишиневый сок, пропадай душа, беги земля из-под ног, как летит голова, вместе с листьями вниз, такие смутные дни, такие смутные дни.
Jour troublé du groupe russe Picnic qui devait se produire au Crocus City Hall le 22 mars dernier. C'est une chanson de 1996 et le groupe a finalement donné un concert une semaine plus tard en hommage aux victimes de l'attentat. Nous sommes toujours avec nos invités Christine Dugoin-Clément et Julien Nocetti pour le premier épisode de notre série sur les services de renseignement. Aujourd'hui, les services russes et la façon dont ils se sont réorganisés depuis le début de la guerre en Ukraine, dont aussi ils ont appris de leurs erreurs ces dernières années et de la manière dont ils ont repris à leur compte les missions de Wagner en Afrique.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Parmi les agents russes expulsés du sol européen depuis 2 ans, malgré leur couverture diplomatique, certains ont eu le continent africain pour point de chute à la mort d'Evgeny Prigogine dans un accident d'avion. Vladimir Poutine les a chargés de reprendre en main ce qu'il reste de Wagner, laquelle s'appelle aujourd'hui Africa Corps, sous le contrôle désormais du ministère russe de la Défense. Bonjour Lou Osborne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enquêtrice pour All Eyes on Wagner. C'est un site indépendant mais associé à Radio Free Europe. Vous êtes co-autrice de Wagner en au cœur du système Prigogine, paru en septembre aux éditions du Faubourg, et qui fait entre autres le portrait d'un homme, Denis Pavlov, diplomate à l'ambassade russe à Bangui en République centrafricaine. Mais ses fonctions ne s'arrêtent pas là. Quel est son rôle à Denis Pavlov ?
Alors, Denis Pavlov, je pense que ça fait écho à ce que vos invités viennent de discuter. C'est un personnage intéressant, puisqu'il se présente comme un diplomate. Il a été en poste en Belgique, notamment juste avant d'arriver en Centrafrique. Mais en fait, c'est un agent du SVR, donc un espion, si vous voulez, dont le rôle est de reprendre la partie des missions de police qui étaient attribuées au groupe Wagner en Centrafrique.
Il fait partie du SVR, on le pense, parfaitement francophone. Il a travaillé sous couverture dans l'émission russe auprès de l'UNESCO à Paris en 2006-2007, de l'ONU à Genève, aussi plus récemment de l'Union européenne à Bruxelles. Mais il ne fait pas partie des agents russes expulsés du territoire européen, me semble-t-il. Il est arrivé il y a quelques mois, mais de son propre chef, en tout cas, pas expulsé par Bruxelles, c'est ça ?
Tout à fait. Il n'avait pas fait partie de la vague des expulsions. Néanmoins, quand on avait réalisé cette enquête, on avait eu comme information qu'il était sous très haute surveillance.
Est-ce que Denis Pavlov est le nouveau Prigogine, entre guillemets, ou est-ce que Vladimir Poutine a pris soin de partager le pouvoir entre plusieurs personnes ou plusieurs services pour éviter que n'émerge une figure aussi forte que celle de son ancien allié devenu son plus grand adversaire ?
Alors, il n'est pas du tout le nouveau Prigogine. D'ailleurs, il a un équivalent au Mali qui fait plus ou moins la même chose. Et puis, il y en a d'autres dans les autres pays où la Russie est installée. En fait, c'est vraiment ça. C'est depuis la mutinerie de Prigogine. Prigogine concentrait finalement dans ses mains une espèce d'aura et de pouvoir très très fort. Et l'idée de son remplacement, c'est de ne pas faire émerger quelqu'un comme lui d'aussi charismatique, et bien de répartir l'ensemble des missions du groupe Wagner entre différents services de sécurité. Et la Centrafrique, c'est assez intéressant, puisqu'il y a une partie qui est a priori reprise par le SVR, une partie qui serait reprise par le GRU, et une partie, voilà, le renseignement militaire, avec un nouveau chef assez mystérieux qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, et une partie qui reste le Wagner historique et qui est plutôt devenu un peu économique, policier, douanier, et qui est toujours dans les mains d'un personnage très connu dans le monde de Prigogine, qui est Dimitri Sy.
Il a aussi placé Vladimir Poutine, Andrei Averianov, au cœur du forum Russie-Afrique, cette plateforme politique de rencontre entre Vladimir Poutine et les chefs d'État du continent. Alors lui, il est au GRU et c'est lui qui était responsable de l'empoisonnement raté de Sergueï Skripal. Donc c'est difficile de savoir quand Vladimir Poutine va licencier, limoger, effectuer des purges dans les services de renseignement après une faute, ou quand il va promouvoir ceux qui sont à l'origine de la faute. Mais en tout cas, toutes ces personnes des renseignements russes qui ont été envoyées en Afrique, est-ce qu'ils travaille avec les hommes de Wagner, ceux qui étaient sous les ordres de Prigogine?
Alors, il y a une partie des gens qui étaient sous les ordres de Prigogine qui ont en fait signé des contrats avec le ministère de la Défense. Et donc, suivant là où ils sont positionnés, maintenant tombent dans ce qu'on appelle African Corps, et qui est en fait un dispositif qui est mis en place en effet par le GRU, dont Averianov est le directeur. Et Averianov, comme mentionné par Monsieur Nocetti, fait partie des généraux du GRU qui ont été un peu outés par Bellingcat. Et donc lui, au lieu d'être démis de ses fonctions, il a eu une promotion, puisque maintenant il serait devenu le directeur adjoint en charge des opérations non conventionnelles hors Ukraine. Et il aurait créé ce qu'on appelle le service des activités spéciales, dans lequel se loge African Corps, avec d'autres choses.
Est-ce que tous ces hommes et ces services ont repris les missions, cette fois, du groupe Wagner? Par exemple, la protection du président centrafricain Touadéra et de son entourage, qui a coûté depuis 2017 près de 500 millions d'euros au gouvernement de République centrafricaine. Est-ce que toutes ces missions-là ont été reportées vers les services de renseignement, ou cela reste de l'ordre de sociétés privées qui continuent à exister, d'ailleurs des sociétés privées russes sur le continent africain?
Oui, alors c'est principalement repris par... ça fait partie de la stratégie de reprise. C'est vraiment le produit qu'ils vendent, hein, c'est la préservation de régime. Donc ils vendent ça. Dans ce produit-là, on a une partie qui est physique, de la sécurité physique, de l'entraînement, etc. Et puis on a une partie qui est maintenir les régimes en place et donc, derrière ça, influencer les opinions. Donc il y a une partie aussi informationnelle. Ça, c'est assez important.
Et influence.
Ensuite... Les autres sociétés de mercenariat, il y en a certaines qui opèrent sur le continent africain. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la plupart, elles ont des liens très forts avec le GRU. Soit leurs directeurs sont des anciens du GRU, soit elles ont carrément, ça a été documenté dans certains cas, signé des contrats en fait avec le GRU. Et donc elles apparaissent comme étant un peu des frontes du GRU pour agir dans des géographies où la Russie est un peu moins présente, notamment.
Un mot sur votre enquête, Lou Osborne. Je rappelle que vous êtes enquêtrice pour All Eyes on Wagner. Les informations que vous avez publiées, vous avez trouvé beaucoup d'entre elles sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Alors qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait eu des réformes dans les services de renseignement, notamment qu'on tâchait de faire en sorte qu'ils ne laissent plus d'empreintes numériques, digitales, empreintes digitales, empreintes numériques, bref, partout. Comment se fait-il que vous ayez trouvé ces informations sur les réseaux sociaux? Ils ne sont pas tenus à la discrétion, ces agents?
En fait, on passe par une étape un peu intermédiaire avant d'aller sur les réseaux sociaux, qui est qu'on utilise en fait, le marché des données russes. Donc, la Russie étant un pays très corrompu, l'ensemble des données administratives russes, aujourd'hui, se retrouvent en vente et sont vendues par des sociétés de données, en fait. Et donc, on accède principalement aux informations concernant les services de renseignement via notamment leurs feuilles d'impôt. Et ensuite, on obtient des numéros de téléphone, etc. Et ça nous permet de pivoter ensuite sur les réseaux sociaux. Et certains d'entre eux ont une présence, alors sous pseudo, hein, ils sont pas, c'est pas écrit Andrei Averianov, par exemple. Mais ils ont une présence numérique.
Merci beaucoup Lou Osborne d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enquêtrice pour All Eyes on Wagner, co-autrice de Wagner, enquête au cœur du système Prigogine, paru en septembre aux éditions du Faubourg. Merci d'avoir été avec nous. Une réaction, Christine Dugoin, Clément, Julien Nocetti, sur cette mission notamment d'influence dont parlait Lou Osborne, que la Russie continue de se donner sur le continent africain, mais aussi en Europe. Et on n'a pas eu le temps dans la première partie de parler de l'existence de la mission Portal Combat, le réseau de portails d'information numérique qui a été révélé là au mois de février. Est-ce qu'on est sur exactement la même logique, Christine Dugoin-Clément, que ce dont vous avez déjà eu l'occasion de parler dans Culture Monde, c'est-à-dire cette mission, comment ça s'appelait, Doppelganger, voilà, où on prend des sites de presse d'organisations officielles, on réserve des noms de domaines et on inonde les continents d'informations entre guillemets pro-russes.
Alors, La finalité va être la même, et sur la méthode, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau. C'est des approches qu'on a pu observer, notamment dans le cadre des mesures actives connues et déployées par le KGB de l'époque, et que l'on voit être repris notamment par certaines unités, hein, comme ça a été évoqué, au sein du FSB, et les deux dont je parlais, hein, là, qui sont sous l'opération, enfin sous la tête du centre 161, effectivement repris par Averianov. Ce que l'on va essayer de faire, c'est d'aller diffuser un certain nombre de narratifs qui vont être relativement dessinés en fonction de la population à laquelle vous allez servir votre narratif, pour que ça fasse écho à quelque chose qui est déjà familier. En règle générale, vous allez prendre des points qui sont déjà cristallisants, polarisants ou irritants sur les zones. Donc quand vous allez aller sur l'Afrique de l'Ouest, vous allez avoir l'anticolonialisme, vous allez avoir l'anti-américanisme, l'anti-mondialisation, etc. Vous allez avoir des sujets comme l'inflation, comme la sécurité sur d'autres théâtres. Vous allez avoir le double standard des Européens si vous allez dans la zone moyenne orientale. Vous allez rappeler des enjeux comme le Cachemire quand vous allez aller en Inde. Voilà, vous allez
l'islamo-gauchisme en France, parce que les étoiles bleues au pochoir.
Le but étant quoi? C'est d'arriver notamment à avoir une forme de division et de morcellement dans votre société qui va être suffisamment important pour que ça empêche d'arriver à avoir une prise de décision qui soit homogène par l'État en question. Et ça va être d'autant plus important si l'État en question est considéré comme étant un adversaire, un opposant ou un ennemi. Le temps que cette prise de décision sera figée, eh bien, ça vous laissera le temps d'avancer. Donc ça, c'est des choses qu'on a vu être déployées, et évidemment, le continent africain et la zone moyenne orientale ont été particulièrement ciblés depuis le début de l'invasion en Ukraine, vu que c'était un conflit lointain et que c'était aussi une voie de contournement pour les sanctions.
Conflit lointain où les agents russes, notamment dans les zones aujourd'hui tenues par les Russes, on les appelle les Yakuza, les agents du FSB qui sont aujourd'hui dans ces zones tenues par les Russes, se sont sans doute saisis de documents du gouvernement ukrainien dans les quartiers généraux locaux et ont accumulé ainsi des données dont ils se servent pour leurs opérations d'influence et d'information. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Christine Dugoin-Clément, je rappelle que vous êtes chercheuse pour la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1 et au Centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale. Vous avez écrit Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques, paru aux éditions VA. Merci beaucoup Julien Nocetti, chercheur associé à l'IFRI et au laboratoire Géode de l'Université Paris 8, contributeur au livre Les mondes du renseignement, paru le mois dernier au PUF, auteur de Géopolitique du numérique aux éditions La Découverte, et vous écrivez aussi pour une nouvelle revue sur le renseignement et le cyber, étude française de renseignement et de cyber. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Armorique à Rennes. Je salue Ferdinand Prévost. Merci à lui de vous avoir accueilli. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Présenté cette semaine par Héloïse Roger. À la une ce matin, Héloïse, on évoque ces inondations très importantes qui frappent le Kazakhstan.
C'est tout le nord, l'ouest, mais aussi le centre du pays qui sont touchés par ces intempéries depuis la semaine dernière. Plus de 70 000 personnes ont déjà été évacuées en raison de ces inondations. Près de 15 000 Kazakhs se sont retrouvés dans les centres d'hébergement temporaire. La moitié sont des enfants. Des milliers d'habitants ont été pris au piège par les eaux. Les opérations de sauvetage ont été très difficiles, rapporte Aki Press. Certains ont même été évacués par les toits. Des treuils ont été utilisés. La hausse des températures liées au réchauffement climatique a fait fondre la neige plus rapidement que prévu, entraînant des crues très importantes, explique le Télégraphe. Le président Kassim Jomart Tokayev s'est adressé au peuple kazakh en fin de semaine.
Nous devons извлечь все уроки из этих масштабных паводков.
Nous devons tirer toutes les leçons de ces inondations de grande ampleur, a-t-il déclaré. Il concède des lacunes dans l'organisation des mesures de prévention des catastrophes naturelles, mais aussi de manque de main-d'œuvre dans ce domaine. Le président kazakh pointe aussi une attitude dédaigneuse à l'égard de la nature. Le gouvernement et les autorités doivent se coordonner pour lutter contre les inondations et assurer le maintien de l'ordre public. Kassim Jomart Tokayev qui a aussi précisé que c'est la plus grande catastrophe de par l'ampleur et les conséquences depuis plus de 80 ans dans le pays. Dans un article de Nour, on apprend que 10 régions sont encore en état d'urgence. Hier, le Premier ministre Oljas Bektanov a organisé une réunion avec les représentants des régions impactées pour faire le point. Et les chiffres sont impressionnants. Plus de 12 000 personnes sont à pied d'œuvre. 1 000 000 de pompes à eau et autres équipements pour permettre l'évacuation de l'eau et des habitants sont réquisitionnés. Plus de 60 000 animaux ont aussi été transférés sur d'autres terres. Le Premier ministre a aussi demandé aux responsables régionaux d'empêcher les hausses des prix alimentaires sur leur territoire, car déjà les inondations ont un impact sur les cultures, les paiements et les indemnisations des agriculteurs. Et ce n'est pas fini, le pays est sous la menace d'une tempête et de fortes pluies aujourd'hui.
Autre sujet qui a attiré votre attention dans la presse internationale, ce sont les manifestations en Espagne pour la santé publique.
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, hier, des milliers de personnes en Andalousie ont manifesté pour dénoncer le démantèlement de leur système de santé. Et ce n'est pas la première manifestation de ce type dans la région, mais la quatrième. 6 mois après la précédente, El País rapporte la lassitude présente au cœur des cortèges. Les Andalous se plaignent d'une attente bien trop longue, ne serait-ce que pour se rendre chez un médecin généraliste. Il faut en moyenne 20 jours pour avoir un rendez-vous, précise le journal. Dans le Diario de Sevilla, on découvre aussi un témoignage illustrant ses difficultés d'accès à la santé. Maria Baena, habitante de Gilena, une commune au sud de Cordoue, explique que son mari est allé faire une prise de sang et qu'il a fallu attendre 8 à 10 jours pour avoir les résultats. Et rien que pour faire ce bilan sanguin, à l'hôpital dont ils dépendent, il peut y avoir jusqu'à 18 mois d'attente. Dans les rues andalouses, hier, il y avait aussi de la colère face à l'annonce de nouveaux contrats avec le secteur privé de la santé pour réduire les listes d'attente. Écoutez Carlos Aristou, il est secrétaire général du syndicat CCOO de Séville. Il n'y a pas un seul citoyen d'Andalousie qui ne perçoive pas la tentative de continuer la détérioration de notre système de santé publique afin d'en faire une entreprise privée. Nous ne cesserons d'occuper les rues tant que nous n'aurons pas la sécurité de pouvoir accéder à des soins de santé publique de qualité. En février dernier, le gouvernement régional a approuvé un nouveau plan d'urgence, 283 millions d'euros, dont près de la moitié alloués au secteur privé. Face à cette situation, le secrétaire général du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol de Cordoue, Rafi Crespin, s'est confié au journal El Día de Córdoba. Le détournement de postes publics vers le secteur privé est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, a-t-il déclaré, en dénonçant la transformation des patients en clients privés.
Et pour finir, Héloïse Roger, vous nous parlez d'un homme qui a parcouru toute l'Afrique en courant.
Il s'appelle Russell Cook, il a 27 ans et il est originaire de Worthing dans le West Sussex. La BBC nous fait le récit de l'aventure de ce jeune homme. Il s'est lancé ce défi colossal après avoir eu des problèmes de santé mentale, d'addiction au jeu et à l'alcool. Il est parti de chez lui en février 2023, départ de l'Afrique du Sud pour remonter jusqu'en Tunisie en effectuant 360 marathons. Il a parcouru 16 pays et non sans but, il a collecté plus de 700 000 livres sterling pour des œuvres caritatives. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pendant son périple, il a été victime avec son équipe d'un vol à main armée en Angola. Des douleurs au dos se sont aussi fait sentir. Au 200e jour, Russell Cook a été contraint de ralentir un peu le rythme. Il s'est aussi confronté à un problème de visa en Algérie, mais l'engouement auprès du jeune Britannique était tel que l'ambassade d'Algérie au Royaume-Uni a accéléré les démarches pour son visa. Il a pu reprendre la route, dernière ligne droite avant d'arriver en Tunisie hier après 352 jours de course.
Merci beaucoup Héloïse Roger.